Qu'est-ce qui vous a mené ici, chasseur de trésors?
Et bienvenue dans Cadenas Directionnel et Lampe UV, votre magazine hebdomadaire consacré aux jeux d'évasion tout l'été sur les ondes de CKRL 89.1. C'est Jessica Leb avec vous, toujours en compagnie de mon acolyte Marc Raymond. Bonjour Marc.
Salut Jessica.
Marc, on consacre, comme je le disais, cette émission aux jeux d'évasion. Mais qu'est-ce que c'est un jeu d'évasion? Tu nous l'as expliqué la dernière fois, puis j'ai bien aimé l'explication, c'est mieux que moi.
Bon, en gros, un jeu d'évasion... C'est une activité tout à fait merveilleuse. T'es enfermé dans une salle en moyenne 60 minutes, moins si t'es bon. Donc, tu fais face à plusieurs défis, c'est des énigmes de logique, d'observation, des manipulations. Donc, c'est ça. Tu passes à travers d'une série d'énigmes pour réussir une mission quelconque là, dans le thème donné par l'entreprise, finalement.
Et l'industrie, je le dis à chaque émission, est grandissante. Au Québec, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'une nouvelle salle, une nouvelle mission ouvre dans l'une des entreprises au Québec. À Québec, dans la ville de Québec, il y a 6 entreprises de jeux d'évasion, bientôt une 7e, puisque ça y est, Défi Évasion a annoncé qu'ils ouvraient une 2e succursale à Lévis et l'ouverture est prévue pour le 12 septembre prochain avec 4 nouvelles missions, dont une particulièrement pour la famille. Je voulais le glisser parce qu'on n'avait pas encore parlé de ça dans l'émission. Chaque semaine à CKRL, on vous fait découvrir une facette du jeu d'évasion. On a parlé des décors, de la construction d'un scénario, parce que vous pouvez accomplir toutes sortes de missions comme braquer une banque, braquer un casino, vous évader de prison, éradiquer une pandémie. Et donc, on vous fait découvrir une facette, comme je vous disais, du jeu d'évasion. Cette semaine, on s'intéresse à ceux qui, comme nous, ont créé un blog sur la question, puisque nous, en février 2018, on décidait d'ouvrir un blog qui s'appelle Les Captivés, consacré aux jeux d'évasion, alors qu'on avait une quarantaine de jeux derrière la cravate, Marc. Comment c'est arrivé cette histoire-là?
L'histoire du blog, l'histoire de l'amour des jeux d'évasion, si on remonte au début complètement, Jess, comme tu le savais peut-être, tu as eu une assignation journalistique pour aller couvrir un scénario chez À Double Tour.
Donc, personne, qui était pandémie.
Qui
on
était
peut le
pandémie.
Dire.
Une nouvelle activité à faire à Québec. On n'avait aucune idée c'était quoi. On était curieux. On est allé voir. On a réussi. On a aimé ça. On a voulu en refaire tout plein.
On en a parlé des heures, surtout en sortant, plus longtemps que l'activité elle-même.
Voilà, un jeu d'une heure. Puis on est allé au Noctem juste à côté. Puis on a dû en parler pendant 2-3 heures. Très enthousiaste, t'as le goût d'en refaire un autre tout de suite. Donc, après une quarantaine de jeux, à force de se faire demander c'est quel le meilleur? Lui, il ressemble à quoi? On a décidé de l'écrire comme ça. On n'avait pas besoin de répéter les mêmes choses à chaque fois. Puis, on était toujours bien embêtés de se faire demander c'est quoi ton jeu préféré? Donc, on y est allé par écrit. Puis, on leur laisse faire leur choix par eux-mêmes, là. Essayer de deviner quel est notre jeu préféré.
Le blog existe toujours, hein, pour ceux qui se posent la question. Ce n'est pas le cas de tous les blogs qui ouvrent. Hein. C'est le plus dur, ce n'est pas tant d'ouvrir le blog, c'est de le continuer et de le tenir à jour régulièrement. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas rester seul dans le monde des blogs des jeux d'évasion. Parce que quand on a créé le nôtre, il y en avait juste un qui existait, Marc?
Il y en avait peut-être un, disons deux.
Ouais.
Un qui était déjà, je crois, plus très actif au moment où nous, on a commencé. Et il y a The Escape Key, le blog de l'ancêtre Gilles
Duchesne, qui sera dans l'émission aujourd'hui d'ailleurs. On va parler de jeux de société, de jeux d'évasion en jeux de société. Ça, c'est une autre avenue qu'on n'a pas encore explorée. Mais lui, il a créé ça
Aucune idée. Ça existait déjà. Ouais. Donc, j'étais allé fouiller un peu au début là, sur son blog pour justement se trouver des idées de salles. Puis on est parti de là, puis on a fait le nôtre aussi. Là.
Et très vite, on s'est mis en contact aussi. C'est pour ça qu'autour de la table, aujourd'hui, nous avons différents blogueurs qui, eux aussi, ont tenté l'aventure du blog après être tombés en amour avec les jeux d'évasion. Quoique, ce n'est pas toujours dans ce sens-là. On va le voir avec nos premiers invités, les fugitifs. On en a trois sur les quatre aujourd'hui. Simon Gariépy, Fred Saint-Jean et Dany Gagnon. Alors, il va falloir se partager le micro. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Fred, je ne sais pas si c'est toi qui vas te faire le porte-parole de la naissance des fugitifs. Comment c'est venu?
C'est un peu par hasard, je pense, qu'on en est arrivé à l'idée de faire le blog. Ça a été un peu aussi, je dirais, par une idée folle. Là. C'est souvent comme ça que ça peut naître, un blog. Là, parce que, comme vous dites un peu, là, c'est beaucoup de travail là, à entretenir, à maintenir. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disparaissent, là, plus qu'il y en a qui perdurent. Nous, en fait, on avait déjà fait quelques salles locales dans notre coin où est-ce qu'on est. On est de Saint-Hyacinthe. On avait déjà fait des salles à l'emprise. Donc, simplement, on avait un peu arrivé au bout de tout ça. Puis, on attendait un peu les nouvelles salles. Puis là, un jour, on s'est dit, bon, ben, comme activité d'amis, ce serait peut-être le fun d'en essayer une autre. Donc, on est allé essayer une autre salle avec deux autres personnes qui ne sont pas actuellement dans les fugitifs. Là, on avait bien aimé ça parce qu'ensuite, on a renouvelé l'expérience. Ce qui fait que, dès la fin de la première salle qu'on s'est fait recommander par un collègue là, de Dany à son ancien travail, il avait dit « il va faire absolument cette salle-là, Wicca à Saint-Jérôme, pour ne pas la nommer, là. Va faire absolument cette salle-là, c'est une des plus folles que j'ai faites de ma vie. » Nous, on y a un peu été, puis après ça, on a vraiment aimé ça, mais en parallèle de ça, on regardait un peu les commentaires sur Internet, puis tout ça, puis on se disait comme « ah ben, tu sais, il y avait vous à ce moment-là, on se ramène nous en juillet 2018, donc ça fait un an maintenant, ils étaient encore au balbutiement de votre blog, tu sais, on veut pas. Donc, quand on regardait dans notre coin à nous, dans le coin de Montréal, vous aviez moins encore de tests de fait, on se disait, crème, OK, notre coin, on n'a pas trop d'idées, on y va un peu à l'aveugle. Fait que là, on avait été faire ça, puis en sortant, on disait, on en a parlé aussi super longtemps, puis là, on est, je pense que c'est moi qui ai dit ça à Joke, là, un peu aux autres, on devrait se faire un blog, ça serait le fun de partager notre expérience parce qu'on avait tellement de mots, puis c'était un peu difficile, un peu, je pense. En le mettant sur écrit, c'était plus facile, c'était plus évident. Et puis là, les autres ont fait comme « ah ouais, c'est une bonne idée ». Fait que là, je pense que c'est à peu près comme ça que c'est né. Là. On avait exactement un jeu derrière la cravate en équipe. Donc, on a commencé ça. Le premier jeu s'est fait le 8 juillet 2018. Puis après ça, ben un peu excessif que nous sommes, on a travaillé sur un site web, on a trouvé tout ça. On a commencé à se trouver des... une façon d'évaluer, on s'est donné des lignes, ça n'a pas été clair au début, ça s'est éclairci, mais ça pour dire qu'on postait à peu près la fin de juillet, là, à ce moment-ci, je dirais le 21-22 juillet 2018, je me trompe pas.
Toute une aventure. Ben, peut-être comment vous vous organisez à quatre, parce que bon, avec Marc, on va se le dire, on est un couple, on vit ensemble, on écrit des soirs de semaine ou la fin de semaine, c'est assez facile pour l'organisation. Vous êtes quatre, vous ne vivez pas dans la même maison et vous n'êtes pas tous dans le même couple.
Presque. Ouais. On a une relation amicale assez particulière, on se voit assez régulièrement, ce qui fait en sorte qu'il y a une facilité un peu quasiment de couple qui s'est organisée au niveau des textes, des évaluations et tout. C'est ce qui a fait aussi, je crois, qu'au départ, on était six, et le fait qu'on ait une relation aussi serrée, et le fait que les salles se... Tu sais, le coordonner six personnes, c'est un peu plus difficile qu'en coordonner quatre, surtout quand les quatre, on est tissé serré, on se voit de façon très régulière, donc six à six soirs semaine. C'est ça, ça change la dynamique.
Et c'est toujours la même équipe, vous jouez toujours les quatre ensemble. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler parce que ça va peut-être changer la dynamique sur la critique que vous en faites pour vos blogs. On va passer à Guillaume Lamontagne, qui est presque le dernier venu dans le monde des blogs avec les évadés en cavale. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Toi, tu viens de Trois-Rivières. C'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais merci à tous d'être là parce que vous venez tous d'un lieu différent de la ville de Québec et vous avez fait la route pour participer à l'émission. Ça nous touche beaucoup. Merci. Guillaume, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton blog sur les jeux d'évasion, les évadés en cavale?
Ben, ça risque d'être redondant un peu... Dans le fond, la première fois que nous, on est allé jouer, c'était ici à Québec. On est venu à Double Tour. On avait fait le Secret des Dunes et on a fait Au Pays des Merveilles. Et puis, comme vous, là, on est sorti de là, on parlait des énigmes. On en a parlé pendant des heures et des heures. Et puis, moi, j'étais vraiment emballé par ça. Donc, je voulais continuer d'en parler sans arrêt. Et puis, il y a quand même une limite à ce qu'on peut imposer à nos coéquipiers en termes de discussion, de jeu d'évasion. Fait que le blog n'est pas né directement quand on a fait nos premiers jeux, mais reste que l'idée était déjà là. Puis ça a pris un 6-8 mois, je dirais, que là, je me suis dit, OK, j'ai encore le plaisir de discuter des jeux d'évasion, j'ai encore le plaisir d'en faire, évidemment. Et puis à ce moment-là, je regardais un peu qu'est-ce qui se faisait moi aussi sur Internet, qu'est-ce qu'on avait comme information là-dessus. Il y avait vous qui était là depuis une couple de mois quand j'ai vérifié. Et puis les fugitifs n'étaient pas encore là quand j'ai pris ma décision. Mais tu sais, je voyais que vous étiez là, donc il y avait un intérêt. Je sais pas s'il y avait un public pour le lire, mais il y a quand même des gens qui étaient prêts à partager leur expérience. Donc ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment intéressant. Ça m'a donné un petit boost pour commencer mes choses. Donc je me suis procuré un site internet et puis j'ai commencé à travailler. J'ai pas publié tout de suite. Et puis ça a pris un autre 4-5 mois. En septembre passé, j'ai commencé à publier. Donc ça a pris finalement un an entre le moment où j'ai commencé puis le moment où j'ai publié pour vrai. Puis les fugitifs s'étaient joints au monde du blog. Donc, tu sais, je voyais qu'il y avait de l'intérêt puis qu'il y avait quelque chose là à ce moment-là. Fait que j'étais heureux de pouvoir partager mes expériences par le biais du blog. Et puis, en même temps, écrire sur le blog, c'est un peu comme partager avec ses amis, au sens que tu fais ton article, tu réfléchis, tu revis ta salle en quelque sorte pendant que tu l'écris. Puis après, ben tu t'envoies ça sur le web, puis tu peux encore discuter avec d'autres gens qui l'ont fait. Donc, ce côté-là est vraiment super intéressant. Et puis, dans le fond, vous êtes plusieurs. Moi, je suis tout seul à écrire, mais j'ai tout le temps mes coéquipiers avec moi. Donc, on est quatre, qu'on fait 95% de nos salles ensemble. Donc, eux autres n'écrivent pas sur le blog, mais nous, on est à Trois-Rivières, donc on fait beaucoup de routes pour jouer parce qu'on a fait pas mal tout ce qu'il y a à Trois-Rivières. Donc, sur la route, on échange des idées. J'essaie de voir quelles salles qu'ils ont préférées. On fait tout le temps 3-4 salles quand on se déplace. Donc, qu'est-ce qu'ils ont préféré, qu'est-ce qu'ils ont bien aimé. Fait que j'essaie de comparer avec moi mes idées, puis avec tout ça, j'en fais un article qui j'espère, intéresse les gens.
Ben, l'avantage, et vous l'entendez aujourd'hui, si nous sommes tous réunis autour d'une même table, c'est qu'on n'est pas en compétition. Nous sommes complémentaires et on va arriver sur cette prochaine partie de l'entrevue. Comment on construit nos articles? Parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes points de vue, on n'a peut-être pas les mêmes critères non plus. Chacun met des notes aussi à sa façon. Donc, je vous propose d'en parler dans la suite de Cadenas Directionnels et l'Empuvée, toujours jusqu'à 20h30 sur les ondes de CKRL.
Je prends des vacances en ambulance. J'ai besoin de soins à l'urgence. Car comme une bête, je faisais la fête. Et je me suis cassé la tête. Oh, un homme en transe qui se déhanche. Je dansais la danse, la négligence. Et la débauche m'a rendu gauche. Yo, FL. Comme un ballon. Oh, un homme en danse avec trop de confiance. Je dansais la
retour dans Canada Directionnel et Lampe UV. Jessica Leb, toujours avec vous jusqu'à 20h30 sur les ondes de CKRL 89.1. Dans cette émission aujourd'hui, on parle des blogueurs de jeux d'évasion, ceux qui ont décidé de commenter les salles où ils allaient jouer un peu partout à travers le Québec et même à l'international quand l'occasion s'y prête. On est toujours avec Guillaume Lamontagne, fondateur des Évadés du blog Les Évadés en cavale. Guillaume, on parlait de la création du blog que tu joues avec une équipe de quatre joueurs, sensiblement toujours les mêmes, mais c'est toi seul qui écris. Qui dit blog dit commentaire des salles auxquelles on joue. Comment tu bâtis ton article? Tu te bases sur quoi? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il apparaisse dans ton article?
Ben, moi, personnellement, puis contrairement à ce que les autres blogueurs font en général ici autour de la table, j'ai vraiment mon canevas standard où que je fais un copier-coller et je remplis mes commentaires parce que c'était quelque chose que je recherchais au début, quelque chose de clair, de droit au but, de qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, c'est du meilleur que. C'est quoi la comparaison qu'il y a à faire avec les autres jeux? Puis souvent, les gens faisaient des longs textes, il fallait trouver les informations un peu partout. Donc, moi, je cherchais quelque chose de vraiment clair. Donc, c'est ça que j'avais envie de créer. Donc,
d'un peu plus méthodique, on va dire.
Ouais,
aussi.
Exact.
Ouais. Avec donc, point positif, point négatif, à qui tu recommandes cette salle.
C'est exactement ça. J'ai des notes sur mon expérience globale, sur le décor, la difficulté. Effectivement, à qui je recommande des points positifs. J'appelle aussi des points améliorés qui sont bien humblement ce que j'aurais aimé voir peut-être dans la salle, mais ça reste l'opinion d'un seul homme à un seul moment dans l'histoire du jeu. Donc, comme je disais, je suis pas mal tout seul à décider des notes, mais je rebondis tout le temps mes idées avec mes partenaires. Donc, si je suis le seul à avoir aimé la salle puis tout le monde a détesté ça, sans dire que je vais descendre ma note, je vais peut-être mettre une petite note au bas de mon article, dire « Bon, ben moi, j'ai vraiment aimé ça, mais mes partenaires ont détesté, donc... »
Pour nuancer, parfois.
Ouais, exact. Mm. Donc, en gros, moi, c'est mon processus de création.
On reviendra après sur l'évaluation. Dans ton cas, c'est des notes sur 10. Mais je donne quelques exemples parce que peut-être que des auditeurs se reconnaîtront dans ceux à qui tu t'adresses à chacun de tes articles. Pour les débutants, pour joueurs expérimentés, en gros, tu dis si oui ou non tu recommandes cette salle, puis argumenter, bien sûr. Pour les amateurs de technologie, pour les amateurs d'énigmes, pour les amateurs d'immersion.
Exact.
La partie la plus difficile à rédiger pour toi serait laquelle? Est-ce qu'il y en a quand même une ou ça vient assez naturellement à chaque salle?
C'est assez naturel, puis j'essaie de pas forcer le processus non plus. Tu sais, d'un fois, j'ai comme juste deux points positifs, même si j'ai vraiment aimé la salle, mais si ça vient pas, je veux pas... J'y vais avec mon feeling, tu sais, fait que j'essaie de rester vraiment authentique là-dedans. Donc, tu sais, je peux avoir aimé la salle, donner une bonne note, je vais essayer de faire transparaître dans mes commentaires, mais s'il y a rien qui me vient dans mes points positifs, c'est que c'était peut-être intangible, et puis... Non, c'est ça. J'essaie de pas trop pousser la note pour pas que ça soit fake dans le fond, parce que je veux vraiment pas donner cette impression.
L'authenticité, on va en reparler aussi en tant que blogueur de rester sincère, même si on a peut-être moins apprécié la salle. On passe maintenant au fugitif avec Simon Gariepi. Vous, à quatre mains, encore une fois, ben en fait, quatre fois deux. comment vous composez ces articles? Parce que vous disiez quelque chose d'intéressant hors d'onde. Vous vous laissez, par exemple, 48 heures pour donner les notes à vos salles, mais entre-temps, j'imagine qu'il y a des commentaires qui ressortent déjà pour l'article.
Oui, assurément, moi, je suis le blogueur qui écrit les plus longs textes, donc je suis le coupable que Guillaume parlait tantôt. puis plus que j'écris textes, plus qu'ils sont longs, fait que la rédactrice en chef, qui n'est pas là aujourd'hui, Guylaine Paul, la quatrième fugitive, n'est pas là de corps, mais elle est là d'esprit, heureusement pour nous. C'est elle qui se tape tous nos textes et qui les corrige de fond en comble. Donc, paix à son âme. Mais oui, j'écris des textes très long et ça peut prendre beaucoup de temps. Je peux écrire un texte sur environ 3, 4, même aller jusqu'à 5 jours.
Ah oui, j'ai cru que tu allais dire heure, j'allais dire c'est pas si pire, mais jour, oui.
Oui.
D'accord.
Fred les écrit assez rapidement. Dany peut prendre peut-être un peu plus de temps, mais un peu moins que moi. Mais quand je suis une bonne lancée, oui, c'est 5-6 heures là, que je peux l'écrire, mais... C'est
Bah alors, quels sont les commentaires que vous voulez faire ressortir? Est-ce que c'est ça, vous vous dites, il faut absolument qu'on parle du décor, de l'immersion des énigmes? Est-ce que vous avez un petit barème comme ça?
À la base, c'était vraiment structuré d'une façon très spécifique. On commençait avec une intro. Après, on parlait du décor, les énigmes, de l'histoire, une petite conclusion. Aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça, mais ça a vraiment changé. C'est plus fluide. C'est sûr que ça commence toujours côté humoristique. On cherche à finir aussi avec un petit côté humoristique. C'est ça aussi qui fait que les textes sont plus en plus longs. Sinon, c'est les éléments qu'on cherche à décrire. Ce sont nos points qui sont dans nos barèmes. Donc, les décors, les énigmes, l'histoire, les effets wow, la cohérence immersive. C'est en gros tout ce qu'on essaye de...
Ça veut dire quoi, ça, la cohérence immersive?
Oui, la cohérence immersive. C'est est-ce que l'histoire, les puzzles, l'ambiance, tout ce qui vous entoure font du sens entre eux? Ou bien il y a quelque chose qui cloche et tu dis « Ah, ça devrait pas être là. »
Comme un anachronisme, par exemple.
Comme un anachronisme, ouais. Ou comme un thème spécifique qui est parmi un autre thème très spécifique qui ne fait aucun sens ensemble.
Donc, trouver un cadenas directionnel sur une île au trésor de pirates, par exemple, ça rentre pas avec la cohérence immersive.
Non, pas très cohérent, mais c'est quelque chose qui arrive, c'est très récurrent.
Oui, c'est pour ça que je le donne en exemple.
Oui, définitivement.
Donc, ça passe pas chez les fugitifs. Là.
Oui, ça passe. Côté cadenas, oui. C'est vraiment plus visuellement, si disons, on est dans c'est un bateau de pirates, mais tu vois des trucs... Je dirais pas du Dolorama parce que c'est pas vraiment le point, mais tu vois des trucs vraiment d'un autre thème différent. Tu sais. Mm-hmm. Dans un thème naval, tu vois des trucs de château, tu fais comme... Non, là, c'est pas ça. Mais on comprend que les cadenas, c'est vraiment quelque chose... C'est obligatoire un peu là, dans l'industrie.
C'est comme ça que sont nés les jeux d'évasion. Hein? Oui. C'est avec le système cadenas-code qui était très facile à bâtir au tout début. Marc, ben, je vais te poser la question. C'est toi le porte-parole des captivés aujourd'hui. Je ne peux pas m'auto-interviewer. Surtout toi, parce que bon, on va se le dire. C'est quand même Marc qui écrit en majorité les articles, bien que je les écris plus vite que lui.
Yes, elle écrit des articles très, très vite, à mon grand malheur. C'est moi qui les écris quand même.
Plus souvent. Ouais. Et Marc, ben, c'est parce que j'ai une formation journalistique aussi, mais toi, Marc, tu t'es improvisé rédacteur grâce au blog. Qu'est-ce qui habite ton article? Qu'est-ce qui est important quand tu rends compte d'une salle?
Ben, un peu comme disait Simon, moi, mes articles sont assez structurés aussi. Il y a toujours l'intro, en gros, deux blocs de développement avec une conclusion. Donc, en intro, on va toujours poser la mise en situation du jeu. On va toujours présenter avec qui on est allé jouer. Parce que nous, notre équipe, elle varie beaucoup, contrairement à Guillaume, qui a son équipe fixe, les fugitifs, qui sont pas mal toujours les quatre ensemble. Ben nous, ben, ça varie. On a un noyau de collaborateurs fidèles, si tu veux, mais aussi, ça va arriver, on initie des gens, on aime...
On veut initier
c'est
des
ça,
gens.
C'est, ouais. On veut faire jouer le plus de monde possible. Donc, oui, l'équipe varie selon les disponibilités des gens, selon plein de facteurs, finalement. Donc, on va toujours présenter l'équipe. Ensuite, le synopsis... qui est tiré du site internet de la compagnie. Donc, pour vraiment mettre là, en contexte le jeu. Ensuite, on part toujours un bloc. On parle du décor, de l'ambiance, de la vibe de la salle. Et on finit avec un bloc qui va parler plus des énigmes, des tâches à accomplir. Puis, ben, en conclusion.
Ce qu'on en a pensé et à qui on la recommande
non,
aussi.
Ce qu'on en a pensé puis ce qu'on recommande, ça va être... C'est au fur et à mesure,
travers.
Donc on parle du décor, on dit ce qu'on en a pensé, les bons points, les mauvais points. Même chose ensuite pour les énigmes. Fait que c'est pas dans la conclusion où on dit « bon, ben ce jeu-là, c'était magique ». Ça va être tout au cours de l'article, finalement.
Parlons de la critique négative. Maintenant, c'est un sujet qu'on veut aborder parce qu'on nous pose souvent la question. On va se le dire, parmi les blogueurs ici, il y en a qui peuvent se faire offrir une partie par une entreprise de jeux d'évasion en échange de la couverture médiatique. Donc, c'est un procédé qu'on réalise avant d'aller jouer. On contacte, dans le cas des captivés, par exemple, on contacte l'entreprise, on leur annonce qu'on aimerait venir tester l'une de leurs salles et en échange, l'entreprise nous laisse l'accès gratuit à leur salle pour notre équipe. Est-ce que ça influence ou non notre critique? On aura l'occasion d'en parler. Comment ça fonctionne pour vous? Moi, je viens du milieu journalistique. C'est une pratique qui se fait dans le journalisme culturel pour aller voir un spectacle. On se fait offrir la place, puis on doit critiquer après. Dans le monde des blogs, ça existe aussi. Dans ton cas, Guillaume, est-ce que tu payes tes salles? Est-ce que tu te les fais offrir? Comment ça marche?
Honnêtement, moi, personnellement, jusqu'à maintenant, j'ai payé comme 95% de mes salles, puis ça me va parce que c'est un passe-temps que j'adore, puis que on fait ça pour le plaisir. Puis justement, comme je disais, le blog, il est là pour prolonger mon plaisir. Donc, l'argent n'a pas rapport là-dedans. Même que je paye mon site Internet puis mon hébergement, ça me coûte de l'argent à partager mon opinion. Fait que je le fais vraiment parce que j'aime ça. Et puis, j'ai pas de problème avec les gens qui se font payer les entrées, honnêtement. Pour avoir discuté avec plusieurs blogueurs qui sont ici, qui sont pas ici, on a souvent les mêmes feelings par rapport aux salles. Rendu là, que tu l'aies payé ou que tu l'aies pas payé, moi, mon sentiment, c'est que tout le monde est honnête là-dedans. Je pense que tout le monde est vraiment authentique à ce niveau-là.
Mais est-ce que ça peut influencer sa critique? Alors, Marc avait un très bon exemple de, la partie gratuite ou à rabais aussi, parce que parfois, si on veut venir jouer un samedi soir dans une entreprise, c'est pas dit qu'ils nous l'offrent. C'est quand même leur soirée de plus grand achalandage. Mais parce que quand on annonce sa venue dans une entreprise de jeux d'évasion en tant que blogueur, les propriétaires veulent nous rencontrer, ils veulent nous accueillir aux petits soins, ils veulent nous faire voir peut-être des coulisses du jeu. Donc, on le sent quand même qu'on peut recevoir un traitement différent de la part des propriétaires. Est-ce que ça peut influencer la critique du jeu que vous allez essayer à ce moment-là, ou des jeux? Parce que des fois, on va se le dire, on se déplace pour plusieurs jeux.
De notre côté, je dirais qu'on se fait payer quoi? Peut-être on s'offre une salle sur deux en moyenne, c'est à peu près ça. Peut-être un peu plus depuis qu'on a plus de following, puis qu'on a plus comme d'impact peut-être. Au départ, on en payait peut-être plus. Mais à chaque fois, nous, c'est vraiment clair avec la personne, ou avec le gérant, ou avec le propriétaire, que ça n'a aucune influence sur la note. T'sais. Fait qu'à chaque fois, quand il va nous dire, ben, on veut vous offrir une partie, on veut vous essayer un jeu chez nous, ben, on lui dit, ben, offre-nous ta plus wow, parce que c'est celle-là qu'on va évaluer. Mm-hmm. Puis nous, on sera pas, malgré que les gens disent qu'on a des commentaires commandités ou des blogs commandités, là, c'est pas vrai que c'est parce qu'on se fait payer, on va pas dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou qu'on va pas taire quelque chose qui est arrivé dans notre expérience parce qu'on se l'est fait offrir. On va, je dirais que en général, la ligne qu'on a décidé de prendre, c'est une ligne plus douce. Donc, on va souvent, dans nos textes, mettre des emphases sur des faits plus wow. Puis ce qui est négatif, va être plus comme vers la fin du texte. Puis au lieu de dire, utiliser des mots ultra péjoratifs puis ultra négatifs, on va dire que ça, on a moins aimé, on a moins apprécié. On va être plus comme relax. Puis ça, je pense que c'est peu importe si on se les fait offrir ou pas, on a un vocabulaire qui est plus posé, je dirais, parce que on veut que les gens ressentent, si on a une expérience qui est moyenne, mais ils vont aussi le ressentir en regardant nos notes, facilement. Exactement. D'où les notes, c'est vraiment ce qui est prépondérant sur les textes. Puis c'est pour ça que Simon parle un peu des textes qui sont plus longs à écrire, c'est qu'on les rend beaucoup plus ludiques, parce qu'on s'assoit beaucoup plus sur la grille d'évaluation que les gens consultent que sur les textes où est-ce qu'on s'amuse. Puis qu'on veut que les gens, quand ils vont le lisent, s'amusent en lisant aussi le texte, plus que le faire comme un peu comme point de forme. Puis je pense que c'est un peu ce qui différencie vraiment nos trois blogs actuellement aussi.
Ça fait pas mal le tour pour la critique négative. Ça aussi, je pense qu'on pourrait en parler des heures encore une fois. On fait une pause dans Cadenas Directionnels et Lampe UV. Dans quelques instants, on vous revient plus concrètement sur nos expériences de jeu. Un petit peu comment ça se passe quand on va essayer nos salles, nos meilleurs souvenirs, peut-être aussi nos moins bons. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h30 à CKRL 89. Cadenas Directionnels et Lampe UV à CKRL jusqu'à 20h30. On est toujours avec nos blogueurs invités, les fugitifs et les évadés en cavale. On a beaucoup parlé, presque théorie, sur nos articles, comment on les construisait sur nos blogs respectifs. Maintenant, on va plus aller sur nos expériences de jeu concrètement à travers le Québec et même à l'international, parce que évidemment, quand on part en vacances, on a aussi envie de jouer à des jeux d'évasion. On va commencer avec les fugitifs. Question pour vous, c'est d'ailleurs Marc qui a trouvé la question, donc je vais lui laisser la poser.
Messieurs et Guylaine, vous gagnez tout le temps. Pratiquement tout le temps.
Presque.
Est-ce que ça l'enlève un petit peu de thrill, le thrill de l'incertitude de dire que tu vas perdre, ou au contraire, est-ce que tu as peur de la fois où ça va arriver?
Ben, heureusement, c'est arrivé à quelques reprises, très rare là, quand même.
C'est quoi le pourcentage de réussite?
Si je me trompe pas, là, on est rendu quoi, 97,5, 98% wow. De taux de réussite à peu près.
Sur combien de jeux à peu près?
On est rendu à 101. Donc 101 jeux. Quand donc, même. Ça veut dire qu'on a échoué après 3 à 4 salles. Donc ceux qui ont échoué dont deux qui ont échoué, qui n'existent plus aujourd'hui. Sûrement parce que ça devait être pas des bonnes salles. Hein, t'sais, imagine. Mais non, on rentre. En fait, quand on fait une salle, on espère surtout tout faire. C'est pour ça que peut-être on se met un stress de victoire. On veut vraiment avoir toutes les énigmes. Mais quand ça arrive, on aura un petit 10 minutes de frustration, particulièrement moi. Moi, j'en ai peut-être 12. Là. Mais je pense qu'on reste quand même... On n'anticipe pas, mais ça nous frustre quand on se rend compte que le propriétaire a prévu un jeu d'une heure et dix puis qu'il voudrait qu'on le fasse en une heure. Mais ce qui nous stresse un peu plus, c'est quand que on comprend pas l'énigme suivante de l'avoir faite en disant « OK, il fallait être dans la tête du concepteur pour la comprendre parce qu'il n'y a aucune autre façon de la comprendre. » C'est plus ça qui nous horripile un peu de l'échec. Mais en tant que tel, je pense que ça ne monte pas à la tête. Puis j'ai pas l'impression qu'on se stresse beaucoup avec ça non plus.
Non, du tout. Puis en fait, je personnellement, dans les meilleures expériences que j'ai vécues, c'est quand tu te ramasses avec 5 minutes au chrono. Puis là, tu as vraiment le stress qui embarque de... est-ce qu'on va réussir? Puis là, tu te mets un peu de garrocher n'importe où. C'est vraiment le fun. Mais je pense qu'il y a aussi le côté frustrant de... peut-être pas frustrant, mais quand tu sors en 25 minutes, 30 minutes, puis là, tu te dis, OK, c'est fait pour 60 minutes. Oui, on a plusieurs de faits, mais il y a...
Vous voulez l'expérience totale sur 60 minutes.
Exactement. Il y a une salle qu'on a réussi, une qu'on a perdue, qui était du même thème. Puis on s'est dit, ce genre d'effet miroir-là, c'est vraiment pas pour nous. Thing outside the box.
C'était lesquels, tiens?
Mental, qu'on n'a pas réussi chez SOS Aventure, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Puis Insomnium chez Find the Key, qu'on a réussi, mais qui était dans la même...
ça se passe dans le cerveau de quelqu'un.
Exactement.
Voilà,
l'espèce d'univers parallèle qui se ressemble, c'est vraiment pas notre tasse de thé. Là.
Alors cette fois, on vous pose une question parce que, bon, on l'a compris, les fugitifs viennent de Saint-Hyacinthe, Guillaume Lamontagne, lui, avec les évadés en cavale, est basé à Trois-Rivières, nous, avec Marc, on est à Québec. Une fois qu'on a fait toutes les salles de notre propre ville, on a envie d'aller découvrir les autres salles un peu partout au Québec, donc ce qui nous a conduit à faire plusieurs voyages en auto, un peu partout au Québec. Vous avez peut-être des objectifs aussi de salles que vous voulez visiter à l'autre bout du Québec par rapport à là où vous êtes. Quel est votre voyage le plus intensif que vous ayez réalisé pour faire des jeux d'évasion? Là où vous vous êtes trouvé un peu intense là-dessus, bah, peut-être Marc peut parler nous de notre expérience. Parce que c'est toi qui conduis à chaque fois, il faut le dire.
Oui, moi je conduis puis Jessica prend des notes dans l'auto. Donc, pour notre part, on est allé à Rimouski. C'est pas si loin, quoi, 3h30, 4h de route. Mais rendu là-bas, on s'est dit, tant qu'être là, bon, on va faire tous les jeux. Donc, il y avait 5 salles à faire. Donc, on s'est rendu à Rimouski, on a fait les 5 salles. Puis après, on est revenu à Québec là, dans la nuit. Fait que ça a été une pas mal longue journée de jeux d'évasion. On s'est fait dire que notre dernier jeu, notre cerveau, il avait l'air un peu mou. Là.
Alors, et vous les fugitifs, vous faites beaucoup de routes, vous aussi?
Oui, en effet. Je pense que nous, ça a été dans votre ville à vous, la ville de Québec. 7 salles en une journée avec une journaliste du Soleil. On était à l'époque 7 joueurs avec la journaliste. On a fait toutes les compagnies qui existaient. Là, en
c'était l'été dernier,
oui.
L'été 2018.
Oui,
ouais.
C'est ça. Donc, c'est quelque chose, 7 salles en une journée. C'est pas quelque chose qu'on recommande nécessairement, je pense. Au bout de 4-5, t'es rendu que t'es sur le pilote automatique, là, puis ce qui se fait, ben, un moment donné, tu t'en souviens plus trop. Mais c'était un beau défi. Là, qu'on s'est donné, ça l'a donné comme ça. Là. L'horaire, je pense que le plus gros défi, ça a été l'horaire. Puis c'est Fred puis Glenn s'en est chargé. Je sais pas si Fred, tu vas en parler.
Je veux pas nécessairement parler de ça, mais oui, je pense que c'est la plus intense. Mais le problème maintenant, je pense qu'à chaque fois qu'on va quelque part en auto, on est rendu avec une espèce d'instinct de c'est quoi le jeu d'évasion le plus proche, c'est quoi le meilleur.
C'est clair.
On va consulter. Là, comme là, Simon n'a pas parlé, mais il arrive du Tennessee, donc il est inévitablement même en vacances avec sa blonde. Il est en enfer. On est allé à Toronto, finalement, on a décidé de bifurquer à Buffalo pour aller faire des jeux. Je pense qu'on n'a pas de... Tu sais, ce road trip-là était intense, mais à chaque fois, on dirait qu'on finit toujours dans un jeu d'évasion. on n'a plus de vacances, en fait. On est rendu.
Bah, c'est plaisir vacances,
oui,
quand même.
Oui, oui, quand même.
Mais il faut écrire l'article du blog après. Guillaume, de ton côté, est-ce que tu as fait des voyages intenses? Toi, t'en as fait à l'international aussi, hein?
J'en ai fait, oui, à l'international. Dans le fond, de la manière ça fonctionne, ma blonde aime beaucoup voyager. Puis, la manière ça fonctionne, c'est ma blonde s'occupe de tout organiser le voyage. Moi, en échange, je chiale pas sur les destinations qu'on fait.
Ah, tiens, prends-en de la graine, ah. Marc.
Mais je m'occupe de gérer les jeux d'évasion à l'étranger. Donc, on en a fait au Maroc, on en a fait en Angleterre, et puis un peu aux États-Unis. Donc, ouais, c'est ça. Ça s'est introduit, comme les fugitifs disent. Maintenant, à chaque fois qu'on part quelque part, y a-t-il une bonne salle? Y a-t-il une salle qu'on doit faire absolument? Puis quitte à... J'aime pas beaucoup ça, faire des salles à deux, parce que justement, mon petit feeling de « j'ai peur de perdre » il ressort, là, mais c'était... toutes les salles qu'on a faites à deux, c'était des vraiment belles expériences. Donc, oui, ça fait partie intégrante maintenant des vacances.
J'aimerais vous demander, ben peut-être une bonne découverte que vous voulez faire. J'aimerais sortir, moi, des grands centres. On parle de Montréal, on parle de Québec. Parlez-moi d'une salle qui vous a surprise en région aussi, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont pas encore fait de salle à Québec, mais comme nous, hein, ils vont en faire une, puis deux, puis trois, puis ils ne vont plus vouloir s'arrêter. Si on devait sortir de vos villes respectives pour aller en région, est-ce que vous avez eu des bonnes surprises? Ça laisse à la réflexion les fugitifs dans vos voyages.
Ben, je crois, couronne nord de Montréal, Boisbriand avec le Grand Immersive Hotel. Si tu me le permets.
Oui,
sur,
ça marche.
Ouais, on
pense
limite,
pas à aller
là.
Boisbriand.
Non, c'est ça. Exactement.
Ouais.
On garde la 15, on va à Saint-Jérôme, mais on arrête à Boisbriand. Mais non, le Grand Immersive Hotel, je pense, vraiment un incontournable.
Chez Immersive.
Je pourrais pas dire grand-chose parce qu'on a un collègue autour de la table qui l'a pas encore fait. Mais non, c'est ça. Je pense que Immersive a marqué un grand coup avec cette salle-là.
Simon, oui.
Si on veut sortir du Québec, je sais pas si c'est
ben
le
oui, allons-y.
Toronto, c'est un endroit qu'on a visité à deux reprises. Je pense qu'on pourrait parler d'Imaginarium comme un endroit vraiment extraordinaire. Sinon, sortir du Canada, le plus proche des lignes par rapport au Québec, je pense, c'est Escape City Buffalo, qui est un incontournable aussi. C'est dans les tops qu'on a fait là, jusqu'à présent.
Guillaume, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes au Québec ou ailleurs?
Je vais prendre la même route que Simon, un peu moins loin que Toronto peut-être, mais à Ottawa, on avait fait Room Escape Ottawa, qui nous avait vraiment impressionnés grandement. On avait joué trois salles là-bas et puis ça a été parmi nos top expériences aujourd'hui. Donc, c'était drôle parce que c'était dans un centre des arcs à flèches, là. Tu peux faire des combats d'arc à flèches là-dedans. Les enfants, ils jouent toute la journée, ça crie partout. Puis là, tu te dis, ça va être un peu bizarre de faire des jeux d'évasion là-dedans, mais c'était incroyable. C'était vraiment le fun. Puis c'est pas si loin que ça de Montréal, en tout cas. Donc, ça peut être une belle destination pour se rendre, pour aller jouer.
Quelle thématique?
On avait une thématique... ma préférée, c'était Deliverance, qui se trouve être un livreur de pizza. Et ta compagnie t'envoie livrer une pizza, mais elle dit que tous les livreurs avant ont disparu, donc tu dois découvrir qu'est-ce qui se passe. Puis si tu livres pas ta pizza, tu vas perdre ta job, donc tu es obligé d'y aller. Et puis, sans divulgâcher la salle, il y a vraiment une belle progression dans l'histoire. Et puis, tu te rends compte qu'il se passe des choses louches, évidemment, mais c'est vraiment bien apporté, c'est magnifique. Puis c'était une salle sur deux étages, il y avait beaucoup de choses à regarder, il y avait beaucoup d'énigmes assez uniques aussi, donc ça nous avait vraiment impressionnés.
Originalité, en tout cas, au scénario. Mais merci à tous pour vos recommandations. C'est effectivement, ça donne envie encore de parcourir des kilomètres pour faire ces différentes salles. On va rappeler les fugitifs si on veut vous suivre. On va peut-être commencer par les évadés en cavale. C'est Guillaume qui a le micro si on veut te suivre sur ton site web.
Oui, évadés avec un S en cavale.ca. Donc, c'est là que je mets mes articles. Sinon, sur Facebook. Je publie chacune de mes publications, donc vous pouvez me suivre là.
Les fugitifs, de votre côté, c'est lesfugitifs.
Fugitifs avec un S.com, simplement. Puis sur Facebook, c'est les fugitifs, référence en jeu d'évasion.
Merci, merci à tous les quatre d'être venus nous voir à Québec. Aujourd'hui, je rappelle que les fugitifs nous viennent de Saint-Hyacinthe et Guillaume Lamontagne pour les évader en cavale de Trois-Rivières, Shawinigan. Merci à tous. Oui, tu as quelque chose à dire, Marc?
Puis nous, ça s'appelle...
Vas-y, dis-le.
Ça s'appelle lescaptivés.
.com.
.com?
Ouais.
Ouais, et puis bah, sur Facebook aussi, là, les captivés.
Exact. Bon, on se relaye tous mutuellement, on est de grands amis. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'est pas fini. Dans quelques instants, on reçoit Gilles Duchesne qui nous parle de comment vivre l'aventure des jeux d'évasion en jeu de société cette fois, parce que oui, vous pouvez le vivre à la maison. Est-ce que ça vaut la peine? On va en parler avec lui.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made.
Vous êtes dans Cadenas Directionnel et Lampe UV sur les ondes de CKRL jusqu'à 19h30. Jessie Caleb avec vous, et on reçoit un autre blogueur autour de la table aujourd'hui, parce que notre thématique du jour, ce sont les blogs. On va parler aussi jeux de société avec Gilles Duchesne du blog The Escape Key. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles, on t'avait déjà parlé d'ailleurs pour l'émission consacrée aux familles. C'est bien toi qui voyages avec ta famille un peu partout à travers l'Ontario et le Québec pour tester des jeux. Mais avant ça, un petit mot sur ton blog, parce que toi, t'es le pionnier. Marc t'appelait même l'ancêtre des blogueurs au Québec, puisque tu as créé ton blog. Bah, tu l'as lancé en 2016.
Oui, ouais, mais je ne le publicisais pas, alors personne ne le lisait. Fait que dans le fond, ça revient un peu au même. Au départ, c'était pour la famille et les amis. C'est quelque chose que j'ai découvert les jeux d'évasion en 2014, en fait à cause d'Escape Manor à Ottawa qui a ouvert. Puis j'ai tout de suite eu de l'intérêt, j'ai tout de suite fait comme je racontais dans le dernier épisode, fait mon possible, même si c'était pas toujours, au début c'était difficile, pour essayer d'en faire quelques-unes. J'ai adoré tout de suite, puis ben, je suis accro, comme les autres.
Tu es basé à Ottawa, c'est la différence aussi, donc c'est pour ça que tu nous parles beaucoup de l'Ontario, un marché très différent, mais c'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui. Non. On aimerait que tu nous parles des jeux de sociétés qui se sont inspirés des jeux d'évasion pour jouer sur table à la maison, parce que toi, au départ, tu es aussi un accro de jeux de société.
Oui, tout à fait.
Donc, inévitablement, tu as essayé ces jeux-là.
Oui. J'en ai même joué plusieurs avant, pour des raisons de logistique, avant de faire des jeux en salle. J'avais déjà plusieurs jeux en boîte derrière la cravate, disons. Puis, ça m'a fait plaisir d'en parler.
Bah, commençons, je ne sais pas si par lequel tu voulais commencer, mais moi, si je pense jeu de société, jeu d'évasion, je pense tout de suite à Unlock, qui est une compagnie française qui a créé ce jeu. Alors sur table, mais ça marche avec une application téléphonique aussi.
Oui, effectivement. Vous devez absolument installer l'application Unlock sur votre téléphone ou votre tablette, iOS ou Android. Et l'application joue une part essentielle. Elle mesure le temps, elle mesure votre score final en fonction des indices que vous lui avez demandé. Elle va fournir les indices, elle enregistre des pénalités. Des fois, le jeu peut vous dire appuie sur le bouton pénalité, puis tu es pénalisé en conséquence.
Ouais. Et l'ambiance sonore.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est très réussi, cette partie-là.
Surtout dans les aventures plus récentes, là, c'est définitivement un atout majeur.
Donc, on achète une boîte d'Unlock, on a trois jeux, trois missions à l'intérieur. Si on devait aller avec un point fort, un point faible de chaque jeu à chaque fois, qu'est-ce que ce serait le point fort d'Unlock? Et on peut résumer par la même occasion comment ça marche.
Donc, Unlock utilise plusieurs mécaniques originales. Ils ont un système, là, on n'élaborera pas trop, mais il y a un système par lequel les cartes sont identifiées, disons, avec des pièces rouges et des pièces bleues. Et on sait, toutes les cartes sont numérotées. Alors, tu sais, si tu vois, mettons, la clé 40 et tu trouves un cadenas numéroté 32. Alors, tu peux dire, OK, ben bleu et rouge, ça les additionne 72. Est-ce qu'il y a une carte 72? Ah oui, le cadenas s'est ouvert. Donc, toute cette mécanique-là où les cartes sont, se gèrent se répond, entre elles.
Ouais.
Et surtout, dans les plus récentes versions d'Unlock, l'application, tant qu'à avoir une application, je pense que ça, tu dois t'en servir à son avantage. Puis, il y a ce qu'ils appellent des machines, donc des cartes qui disent, OK, entre ce numéro dans l'application, et là, il va y avoir peut-être un petit casse-tête interactif, avoir à comprendre quelque chose, avoir à interagir plus avec l'application. Puis, je pense que c'est définitivement une force des Unlock.
Oui, puis ils sont devenus de plus en plus créatifs aussi avec la façon d'interagir avec l'application, là, tout ce que le téléphone peut capter comme information qu'on lui transmet.
Oui.
Ça rend le jeu...
Pas juste du son, donc.
Non, c'est ça. Donc, ça rend le jeu vraiment plus... il déborde
oui,
des
c'est
cartes.
Ça. Là, si on veut pas trop en dire pour éviter les spoilers, mais dans les versions récentes, il y a eu de la réalité augmentée, des situations où, dans le fond, tu dois regarder une carte à travers ton téléphone et tu vas voir autre chose. Donc, c'est ça. C'est très intéressant. Par contre, si on parle des désavantages, ben c'est... Unlock a les désavantages de ses avantages, finalement, les faiblesses de ses forces, parce que t'es obligé d'avoir de l'application. Donc, si t'es dans un chalet ou en camping, donc t'as nécessairement besoin d'avoir l'application et d'avoir une version à jour. Et t'as aussi... aussi le fait, comme tu dis, oui, essaye de toujours trouver des nouveaux trucs, des trucs originaux, mais des fois, ben c'est... Ça peut être des mauvaises idées. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ce scénario-là, franchement, l'interaction, j'ai pas aimé ça, ou cette énigme-là, j'ai trouvé pas bonne. » Donc, ça reste une question de goût aussi, je te dirais.
Puis si on est bloqué sur une énigme, on a beau demander les 3 indices disponibles, nous, ça nous est arrivé qu'on n'ait aucune idée de comment résoudre cette énigme-là. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas le maître de jeu en personne pour nous aider. Mmh. On est obligé de demander la solution.
Ouais.
Ça, c'est un petit peu frustrant. Bon, c'est arrivé rarement dans notre cas, mais on adore. Jeu familial exceptionnel.
Oui.
Je ne sais pas, tu as dû le tester en famille.
Oui, non, mes familles, oui. mes enfants sont toujours jaloux quand je joue sans eux.
Je les comprends. Donc, Unlock, on vous le rappelle, il y a... Est-ce que les 6 boîtes sont... Le numéro 6 est disponible? Il y a 6 boîtes au total.
Oui, elle est sortie, ça fait un mois et demi en France. Et là, on a vu...
Elle arrive au Québec.
C'est ça. Ouais. On a vu que dans les derniers jours, là, les boutiques locales ont maintenant cette nouvelle boîte.
D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais si vous voulez vous procurer ces jeux de société, jeux d'évasion, ils sont souvent disponibles chez les entreprises de jeux d'évasion chez lesquelles vous allez jouer. Il y a toujours, il y a souvent une section boutique. Donc, généralement, les entreprises s'arrangent pour avoir la dernière boîte d'Unlock ou même les précédentes. Commencez par les premiers et avancez tranquillement. C'est sûr qu'on est capable de mieux suivre la technologie dans cette ordre-là.
Ouais. J'oserais dire rapidement aussi qu'il y a des versions imprimables. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios gratuits que tu peux imprimer toi-même à la maison et jouer avec l'application. Donc, ça peut être une bonne façon d'essayer le jeu sans dépenser, vraiment.
Sur le site d'Unlock. Un autre jeu aussi qu'on va croiser un peu partout dans ces boutiques, je veux citer La Revanche aussi à Québec et Imaginarium qui vendent ces jeux-là. Exit, qu'on retrouve aussi. Un petit jeu de cartes cette fois. Hein. Un grand jeu moyen. Bon.
Oui, les boîtes sont quand même relativement petites aussi. Encore une fois, une mécanique de cartes, donc un paquet de petites cartes que tu gères cette fois-ci. Les cartes sont clairement identifiées, tu as les indices, tu as les cartes qui constituent les énigmes, et dans le fond, au fur et à mesure que le jeu avance, tu obtiens la permission de prendre des nouvelles cartes et de pouvoir donc les utiliser pour figurer les énigmes. Ce qui est particulier des exits, La force et les la force d'exit, qui peut aussi encore une fois être un inconvénient, c'est que il faut on va avoir à découper les cartes, on va avoir à déchirer du contenu, on va avoir à découper. Il y a un petit manuel, un petit livret qui vient avec le jeu, qui contient du contenu tout de suite accessible, puis les cartes, ça vient au fur et à mesure, mais c'est ça. Exit fait beaucoup d'efforts pour trouver toutes sortes d'interactions originales que vous allez avoir à faire dans le jeu. Donc, certaines personnes vont adorer cet aspect-là. D'autres, comme moi, qui détestent endommager le matériel, disons, vont être un peu plus agacés. Et là, souvent, je sais, moi, je me suis trouvé des trucs. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont trouver des trucs qui ont leurs propres trucs là, est-ce que ce soit faire des photocopies, faire des photos, utiliser une tablette puis passer dessiner par-dessus une photo que tu as pris du contenu, ce genre de choses là, donc qu'on va souvent voir avec les exits. Donc encore une fois, ça peut être, il y a des gens qui vont adorer ça, d'autres qui vont être agacés par le matériel et détruire.
Faut pas tenir au matériel, au jeu matériel, à moins de trouver ces petites stratégies, effectivement.
Puis aussi, ce qui arrive, c'est que les gens, t'achètes le jeu, puis tu sais qu'après tu le jettes parce que c'est pas réutilisable. Donc, t'as une petite conscience écologique.
Ouais. On prend un coup. Versus Unlock, hein, juste pour préciser, bon, oui, on ne peut pas rejouer au jeu, parce que même si on dépasse le temps, on va vouloir terminer la partie en dehors du temps en partie.
Et le jeu le permet.
Exactement. Mais on peut échanger la boîte avec quelqu'un qui a une autre boîte que vous n'avez pas, on peut la revendre. Bref, il y a des possibilités infinies. Le groupe d'accro de jeux d'évasion aussi permet les échanges.
Les ludothèques, des fois, les ont, et ça, c'est formidable. Tu loues le jeu, tu joues, tu as fini.
Tu le rends. Et voilà. Oui, parce que c'est quand même un budget, hein, on n'a pas précisé à chaque fois, mais bon, Unlock, c'est une $40 facile.
Ouais, 35, pas mal. 35, c'est un bon prix, disons, pour une boîte neuve.
Et Exit, on est dans quel budget?
20 peut-être. J'en ai vu à 15, mais faut que ce soit. C'est un bon deal à 15.
Ça explique aussi pourquoi on s'en sert qu'une seule fois. Donc, on a déjà parlé des points forts et des points faibles. Parlons d'un troisième jeu pour terminer qui s'appelle Escape Room in a Box. Je connais pas celui-là.
Oui, c'est une série. Ben c'est un peu moins connu et c'est probablement je le dis tout de suite, le désavantage de cette série-là. D'abord, il y en a eu seulement deux à date et on pourrait, sur mon blog, j'ai les informations, on mettra les liens. Mais il y en a seulement deux sur le marché. Les deux, honnêtement, je les trouve magnifiques. Je trouve la façon dont ils gèrent les énigmes, c'est des enveloppes. Tu ouvres la boîte, tu as un paquet d'enveloppes scellées et essentiellement, les enveloppes ont des codes. Donc, il y a un système par lequel tu détermines, OK, tu as maintenant le droit d'ouvrir cette enveloppe. Et des fois, les enveloppes contiennent d'autres enveloppes. Les enveloppes peuvent contenir du matériel, des trucs en carton, des trucs à assembler. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Et j'ai eu c'est une des premières séries que j'ai essayé. J'ai eu un coup de cœur pour cette série-là. Le gros problème, ça fonctionne bien avec les plus jeunes, mais le gros problème, c'est que c'est vraiment facile. Je veux dire, pour des gens qui font des jeux d'évasion régulièrement, vous risquez de trouver ça significativement facile. La boîte dit, comptez 2 heures si vous êtes, je pense, entre 3 et 5 joueurs et 1h30 si vous êtes jusqu'à 8, et ça, c'est n'importe quoi. Là, vous mettez 4 personnes. Si vous voulez un beau défi, vous êtes des accros, vous voulez un beau défi, 4 personnes, 45 minutes. Vous pouvez mettre mettez votre propre chronomètre de 45 minutes pour en faire une. Et là, je pense que ça donne une autre dimension au jeu et c'est très agréable.
Donc, pour Exit et Escape Room in a Box, on n'a pas besoin d'application de téléphone cellulaire.
Non.
C'est indépendant avec la boîte.
Il y a une appli Exit maintenant, mais c'est seulement pour les effets sonores puis avoir un chronomètre.
D'accord. Donc, Escape Room in a Box, assez facile à trouver également?
Oui, dans les boutiques de... Je me rappelle malheureusement pas du nom du distributeur. Je pense que c'est Thinkbox. C'est dans les... ThinkFun. C'est ThinkFun. Donc, la plupart des magasins de jouets traditionnels vont l'avoir. Et peut-être aussi quelques jeux d'évasion qui sont plus au courant.
Oui, ici à Québec, à l'Imaginaire, je sais que
Assurément, c'est un
jeu qui est toujours disponible.
Mais Gilles Duchesne, on le rappelle, tu fais aussi des critiques de ces jeux de société sur ton blog. Donc, on va rappeler la référence.
Oui, tout à fait. C'est theeskkey.blogspot.ca. Normalement, j'ai un filtre. Si vous cherchez un peu, vous faites tapez jeux de société ou board games
sur le site web,
vous devriez être capable de trouver. J'ai vraiment une liste des jeux dont on a parlé et de plusieurs autres, des fois moins connus, mais qui peuvent en valoir la peine.
Parce que l'industrie est déjà grande aussi pour ces jeux d'évasion en jeu de société. Donc, Gilles Duchesne, fondateur de The Escape Key, merci beaucoup. Blogueur également, merci beaucoup d'être passé à Québec, hein, parce qu'on rappelle que tu viens d'Ottawa, toi aussi.
Ça me fait toujours
de
plaisir.
Loin. Merci.
C'est c'est terminé pour cadenas directionnels et lampes UV aujourd'hui, mais soyez là la semaine prochaine, plus que tout, puisqu'après vous avoir parlé de jeu d'évasion pendant 12 semaines, on va vivre le jeu d'évasion à la radio. J'espère quand même que depuis le début de la saison, vous êtes allé essayer votre premier jeu d'évasion, mais si c'est pas le cas, il va venir à vous dans votre poste de radio à CKRL, puisque 5 entreprises de la ville de Québec nous ont concocté une énigme chacun pour avoir ce premier jeu d'évasion à la radio. Et vous allez devoir nous aider parce qu'on sera connecté en Facebook Live sur la page Facebook de CKRL et donc vous allez nous aider à scruter les indices dans le studio et à résoudre ces fameuses énigmes. Alors je compte sur vous pour être avec des nôtres la semaine prochaine. Dans quelques instants, c'est Chucky McDonald qui s'en vient pour la loi du rock et je vous souhaite une bonne soirée.